Bonjour tout le monde, merci d'être venu. Je remercie également le comité PARA pour l'invitation. Je vais juste mettre mon minuteur, comme ça je ne dépasse pas. Voilà. Alors, la médecine légale, je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens. Donc, on passe un peu partout dans les médias, comme vous pouvez le voir, si ça marche bien, voilà. Alors, on a les experts, des séries anglophones, vous avez des séries francophones, vous avez également des séries un peu tout le monde, enfin un peu partout, également belges. Peut-être quelqu'un connaît, ni juge ni soumise.
Oui. Oui.
Ouais. Pareil dans les livres, je pense que celui-là, vous l'avez vu assez récemment, beaucoup dans TV, il a également publié. Puis un deuxième livre de lui, on a également des bouquins anglophones et germanophones. Voilà, mais qu'est-ce que c'est la médecine légale? Donc je vais commencer par une introduction pour expliquer un peu le métier. Ensuite, on va passer vraiment sur l'activité, donc activité qui concerne les défunts, mais également activité qui concerne les vivants. Alors, la médecine légale, on est une spécialité, on répond à des questions techniques qui sont posées par le système judiciaire. Donc, on reste expert. Donc, à chaque fois que le système judiciaire, ils ont une question médicale, ils vont nous contacter pour avoir une réponse technique à une question qui reste technique, finalement. C'est une spécialité à part entière depuis l'arrêté ministériel de 2002 en Belgique. L'activité varie un peu en fonction des pays, même en Europe. Je vais revenir à la formation un tout petit peu après. Et donc, comme j'ai dit, c'est apporter un éclairage scientifique et médical à la justice pour permettre un jugement qui est éclairé. Voilà. C'est un métier qui est très variable. Donc, en effet, on se concentre sur les défunts, donc les descentes sur les lieux, les lieux de décès suspects. On fait les autopsies. Mais on a également une activité qui concerne les vivants. Donc, ce qu'on fait, c'est les enquêtes médicales, par exemple, récemment, les fusillades. Il n'y a pas tout le monde qui meurt. Heureusement, donc ils vont être à l'hôpital. Mais la question, c'est est-ce que cette personne risque de mourir ou elle risque de récupérer quel est son pronostic vital finalement. Donc là, on va contacter les médecins. Reconstitution de fait, par exemple, après un homicide, vous allez avoir un auteur, vous allez avoir des témoins. Et pour cadrer les constatations des différents experts, donc ce que nous on a constaté sur place, on va rejouer de la mémoire de l'auteur. Donc l'auteur il va venir et il va expliquer ce qui s'est passé et nous on va dire est-ce que ça cadre avec ce qu'on a vu sur place. Ensuite on fait également examen de victime et de suspect, donc suspect immédiatement après les faits, et examen de victime à distance, ça je vais y revenir un peu après. On fait les aptitudes à la conduite, donc les roulages, on fait également les explorations corporelles, ce qui est les examens de victimes de violences sexuelles, et on fait des études de dossiers médicaux. Donc ça c'est les juges qui saisissent, qui nous envoient, et qui nous envoient avec une question. Quel était le bilan lésionnel quand cette personne a été hospitalisée, ou alors est-ce qu'il y a une responsabilité médicale? C'est un travail qui est très multidisciplinaire. On travaille avec les laboratoires, la police technique et scientifique, les toxicologues, donc ce n'est pas nous qui faisons les analyses toxicologiques, c'est les toxicologues qui font ça. Entomologie, les études des insectes, génétique, experts en balistique, incendie. Donc on travaille avec beaucoup de monde. C'est un master de spécialisation, donc c'est des études de médecine, comme tout le monde, 6 ans maintenant. Suivi de 5 ans de spécialisation, donc 1 an et demi d'anatomie pathologique, qui est l'étude des maladies en dessous du microscope. Donc c'est regarder les choses en dessous du microscope. Et la médecine légale, pure et dure, 3 ans et demi. Et pendant ces 5 ans, on fait des formations complémentaires en médecine d'expertise notamment. Moi personnellement, j'ai eu des cours de droit pénal, introduction au droit pénal, puisqu'on travaille quand même, on répond à des questions, donc parfois c'est utile de connaître vraiment l'intérêt, pourquoi il demande ces questions. En Belgique, comment ça fonctionne? Par arrondissement judiciaire. Du côté francophone, alors ça c'est les numéros de compétence. Voilà. Chaque médecin a un numéro INAMI, et ça c'est le numéro de compétence. Celle qui termine en 88, c'est les assistants, médecins en voie de spécialisation, et ça c'est les médecins qui sont agréés, spécialisés. Il y en a un plus que ça. Simplement, parce qu'il y en a qui ont encore, pour rappel, une spécialité qui n'est pas si vieille que ça, 2002. Donc avant, c'est des gens qui ont simplement fait médecine d'urgence, formation complémentaire, qui n'ont pas le numéro INAMI de compétence, si vous voulez. À Bruxelles, donc moi je travaille aux cliniques universitaires Saint-Luc, on est 3 médecins. Il y a un médecin qui est indépendant, qui fait uniquement les journées, uniquement pour Bruxelles. Et on a un médecin qui est en voie de spécialisation, qui est assistante. Nous, on couvre Bruxelles, Brabant-Wallon. Donc, c'est parfois des distances Tubize, Jodoigne, Bruxelles. Et on est organisé en demi-semaine ou semaine de garde, ce qui veut dire que c'est jour et nuit. C'est plusieurs jours d'affilée. Si je ne dors pas, tant pis. Voilà. Alors, venons un peu à l'activité en ce qui concerne les décès. Qu'est-ce que c'est une descente? Alors, on a par exemple le voisin qui se plaint puisque ça pue depuis une petite semaine dans les communs. On ne sait pas trop d'où ça vient, sauf que depuis 12 jours, il y a aussi des asticots sur le palier. Puis on se rend compte qu'on n'a plus vu le voisin depuis deux mois. Donc on se dit, on va peut-être appeler les services de secours. Quand on appelle le 100, c'est un service qui est uni maintenant pour les services de secours et pour la police. Donc parfois, eux, ils ciblent déjà les appels qu'ils préviennent les services de police sur place. Donc ici, il va y avoir quelqu'un qui descend sur place, qui va ouvrir la porte, qui va forcer la porte, et on tombe sur un cadavre en putréfaction. Il va, alors, qui dit mort, dit également certificat de décès. Donc c'est un médecin qui doit constater ça. Sauf que ce n'est pas nous. À Bruxelles, c'est souvent les services sans. En Brabant wallon, c'est souvent le médecin traitant, donc ça prend du temps. Par contre, il n'y a personne qui veut déclarer les décès sur un cadavre putréfié. C'est compliqué. On ne connaît pas forcément la personne. Donc, le constat d'essai, qu'est-ce que j'ai comme choix? Alors, en facilité. Mort naturelle, mort violente, mort indéterminée. Qu'est-ce qu'on coche? Ça peut être naturel, mais je ne sais pas trop. Alors, toute mort indéterminée, violente, il faut un appel au service de police. Et donc, c'est là que la police va appeler le parquet. Il y a une information qui est ouverte au parquet et le magistrat de garde il va décider si oui ou non, moi, je dois aller. Et donc, moi, je reçois l'appel du parquet, du magistrat de garde. J'arrive sur place. Première chose que je fais, je parle aux services de police qui sont sur place. Donc il y a un périmètre de sécurité qui va être ouvert, il y a une enquête qui va être débutée, et moi ce qu'il me faut, c'est les premiers éléments. Qui l'a trouvé, qui a appelé, vers quelle heure, quand est-ce qu'il a été vu la dernière fois, est-ce qu'il a des problèmes de santé particuliers, est-ce que cette personne est connue, est-ce que c'est quelqu'un qui vit seul, pour avoir une petite idée. Je ne descends jamais seule, je descends avec le laboratoire de la police technique et scientifique, le labo, donc Team CSI. C'est ces gens-là qui sont pas toujours des officiers de police. Parfois, à un moment donné, ils ont ouvert des postes à des gens qui sont biologistes, qui travaillent dans même des photographes, qui ont fait des formations alors supplémentaires pour travailler pour le laboratoire. Et c'est eux qui vont aller en premier dans l'appartement ou à l'endroit où c'est. Parce que, périmètre de sécurité, on ne sait pas si c'est très suspect, si j'ai... Donc, il faut essayer de limiter les contaminations. Donc, moi, je reste dehors et j'attends. Jusqu'à ce que lui me dise, donc sur base de ce qu'il constate, est-ce que c'est très suspect? Et donc là, en théorie, on devrait mettre d'office les overalls, donc les trucs blancs que vous voyez dans la TV avec capuche, masque et les overshoes. Ça, c'est normalement systématique. On ne le fait pas toujours, surtout si c'est quelqu'un, porte fermée, qui a quand même des gros antécédents médicaux, qui n'a pas vraiment d'inquiétude sur place, et que finalement, ils ont juste appelé puisque le médecin a mis mort indéterminée. Donc là, on relativise. Qu'est-ce qu'on fait sur place? Donc ce qui est important, c'est tout ce qui peut me donner des indices sur mon évaluation finalement. Est-ce que j'ai des documents médicaux? Si c'est une pendaison, est-ce qu'il y a une lettre d'adieu? Est-ce qu'il y a des signes de lutte, de fouille, donc, qui rendent le truc un peu plus compliqué? Et puis, si on a fait tout ça, avec éventuellement prélèvement, on va procéder à l'examen externe. Donc l'examen externe, j'ai un cadavre qui est devant moi. Je ne peux pas toucher tant qu'il n'y a pas des prélèvements qui soient faits. De nouveau, risque de contamination. Donc si j'ai un truc qui est suspect, il faut certains prélèvements qui doivent être faits avant que moi je puisse toucher et examiner. Qu'est-ce que je fais? Les signes d'identification, donc ça c'est la couleur des yeux, la couleur des cheveux. Il y a une barbe. Est-ce que les dents, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il n'y en a plus? Les vêtements, cicatrices, tatouages. Ensuite, signes de violence. Je regarde la tête aux pieds. Est-ce que ça bouge anormalement? Est-ce que j'ai des bleus? Est-ce que j'ai des plaies? Et ensuite, les signes de la mort. Donc ça, je vais revenir un tout petit peu plus tard. Oui, on ne détermine pas le délai post-mortem à l'autopsie. On le fait sur place. D'où l'importance d'aller sur place. Ensuite, quand on a toutes ces informations, on appelle le magistrat. Alors, si tout est clair... Si j'ai vraiment pas d'inquiétude que c'est une pendaison, que tout cadre avec le système qui est en place, qu'il y a une lettre d'adieu, que cette personne est en effet connue, qu'il n'y a vraiment aucun signe qui m'interpelle, ben je peux appeler le magistrat, je peux dire je n'ai pas d'inquiétude, ce n'est pas nécessaire de faire une autopsie. Par contre, si j'ai vraiment des signes d'intervention de tiers, qu'il y a des plaies par arme blanche, que peut-être on sait déjà avant qu'on m'appelle que c'est une fusillade et que la personne est décédée sur place, alors on va dépêcher également le juge d'instruction et le parquet sur place. Donc c'est une descente des magistrats. Et on va réexpliquer sur place, avec le labo, avec éventuellement experts balistiques, en fonction de ce que c'est, vraiment ce qu'on a trouvé. Donc, on a trouvé X touilles, ils étaient là, là, là. Puis, moi, j'avais expliqué ce que j'ai sur le corps. Et puis, on va procéder à l'autopsie. Donc, le corps va être transféré pour autopsie. Si c'est entre les deux, alors également autopsie. Si j'ai une des circonstances qui ne sont pas claires, si j'ai quelque chose qui me dérange, que je ne sais pas trop, il part en autopsie. Ce qu'on fait à Bruxelles, j'ai quelqu'un qui est jeune, par exemple 30 ans, il n'a pas de raison de mourir, même si je n'ai pas de signe de violence sur le corps en tant que tel, on va aller vers l'autopsie généralement, on va préconiser. Ce n'est pas partout pareil, puisque en théorie, c'est la santé publique. Alors que si nous, on demande par le magistrat, ça va être le SPJ qui va payer. Donc ça, c'est un peu la question. Par exemple, il y a aussi des différences entre Barbon-Wallon et Bruxelles. À Bruxelles, on a malheureusement beaucoup de toxicomanie. Donc, ils ne vont pas poursuivre chaque... Parce qu'en théorie, quelqu'un meurt d'une overdose. En théorie, on pourrait poursuivre celui qui lui a vendu la drogue. Ce qu'ils font au Brabant-Wallon, ce qu'ils ne font pas du tout à Bruxelles, parce que simplement, on a trop... On ne va pas réussir à autopsier tout le monde qui meurt d'une overdose, malheureusement. Donc, au Brabant-Wallon, ils partent d'office en autopsie, alors qu'à Bruxelles, si je n'ai pas de lésion, qu'il y a du crack à côté, qu'il a vraiment tous les signes d'une... une overdose, ben on ne va pas forcément passer à l'autopsie. Voilà. Alors, les prélèvements, ça c'est un truc assez classique, on appelle ça taping 1-1. Donc c'est des petites bandes autocollantes qui sont numérotées, qu'on va coller sur toute la surface du corps. Ensuite, le labo va prendre une photo, et on rebelote, on fait ça également après avoir tourné le corps. Et ça sert à ça. Alors ça c'est des photos d'autopsie, d'une publication de celle-ci. Et en fait, donc ça c'est la tête, ça c'est le cou, ici on voit l'oreille, et ici c'est la partie haute de la poitrine. Et on voit ceci et cela. Bon, vu les ecchymoses, les bleus, on suppose que c'est une violence contre la région cervicale. Et en fait, on pense donc que c'est probablement le contact avec l'auteur. Et donc cet auteur peut laisser des traces ADN. Et des poils et des fibres, et ça c'était le taping, donc ça c'était la photo de ça. Et en fait... On sait que c'est là, on sait que c'est là. Ils entourent. Et après, on sait quel numéro de bande. Et c'est celle-là qu'ils vont analyser. Parce que ce n'est pas possible d'analyser tout. Donc il faut cibler. Et ça, c'est en fonction des lésions qu'on voit. En fonction, parfois aussi, sur les vêtements. Donc ils vont aussi faire l'analyse des vêtements. Donc voilà. Alors, j'ai un petit extrait.
Oui, je crois, oui. Eh, Pasteur, si vous arrivez, vous êtes qui, vous?
Je m'appelle Salahoud, légiste. Ouais, bah... Attendez, dites pas un mot, je lis dans vos pensées. Ce connard de légiste n'a rien à foutre sur ma scène de crime. Eh bien, si, justement. Parce que moi, la viande froide, je préfère la voir une première fois quand elle est encore chaude. Qu'est-ce que je veux dire? Dans son milieu naturel. Après... Hop, hop, on rentre à la bande, on découpe, on pèse et on emballe. Oh les gars, profitez pas que je parle à une dame pour l'embider.
Voilà. Moi j'aime bien les titis aussi, les grands cotons-tiges.
C'est vrai qu'ils ressemblent, les cotons-tiges géants.
Bonjour, c'est le capitaine Marlowe, homicide. J'ai été muté à Perpignan.
Jamais. Elle a été tuée cette nuit. Entre 5 ou 6 heures du matin, je vous dirai ça avec précision quand j'aurai découpé. Plus impact. Les balles, c'est du...
C'est du 9 mm, oui.
Un silencieux, j'imagine. La boue touche pour le premier coup.
Ah. Ça veut dire qu'elle connaissait son instinct, alors? Parce que moi, par exemple, je me laisse jamais approcher d'aussi près.
Car elle a chèrement défendu sa vie, c'est battu jusqu'au bout. J'ai tout prélevé de l'ADN de ses ongles.
Ah.
T'es là, vous voyez? C'est pris un coup. Une grosse baffe.
Ah, ouais. Ah bah c'est marrant ça.
Oui, vous
bah oui, parce que, admettons que vous êtes le tueur, d'accord? Vous n'avez pas une tête de tueur, même si vous ressemblez un petit peu à Landru. Vous voulez buter cette nana parce que vous l'aimez pas, d'accord? On sait pas pourquoi, on s'en fout. Et coup de bol, vous avez un bon vieux flingue chez vous, silencieux, solide, disponible en plusieurs coloris. Bah est-ce que vous allez vous casser la nénette à lui foutre des baffes à cette nana avant de la buter? Non? Bah je sais pas, vous feriez quoi, vous?
Je sais pas. Moi... que les sentiments. Mon boulot, c'est juste la viande.
Voilà. Alors, j'aime bien Capitaine Marlowe, mais bon. Alors, on a la place sur place. Comme je vous ai dit, une première évaluation, c'est important. Parfois, c'est il n'y a pas de signe de fouille, parfois il n'y a pas de signe de lutte, mais j'ai des signes de violence sur le corps. Et donc c'est moi qui va pouvoir dire, ouais non, il y a un petit problème. Par contre, chacun ses fonctions. Alors ici, c'est le médecin légiste qui a fait les prélèvements. C'est les prélèvements sous un guéos, avec un petit coton-tige qu'on vient vraiment en dessous des ongles pour voir justement si avec victime, ce serait défendu ou régratté. Donc on risque de trouver les traces ADN de l'auteur justement en dessous. Ce n'est pas moi qui fais ça, c'est les laboratoires. Comme je vous ai dit, moi je ne touche pas tant que les prélèvements ne sont pas faits. Parfois j'aide, hein, mais ce n'est pas simplement pas mon rôle. Le bilan lésionnel initial est très important, ça permet d'orienter aussi. Parfois j'ai des lésions qui peuvent indiquer qu'il y a peut-être deux couteaux qui ont été utilisés, les douilles sur place qui disent qu'il y a au moins deux armes qui ont été utilisées. Est-ce que c'est contondant, donc est-ce que c'est des coups, est-ce que c'est poignardé, est-ce que c'est des armes blanches. Donc tout ça, moi je vais déjà pouvoir orienter. Ensuite, alors, Capitaine Marlowe qui débarque sur la scène, il y a encore des prélèvements qui sont en train d'être faits, sans vêtements de protection. Oui, alors là, elle risque de contaminer un peu tout, surtout qu'elle touche aussi tout. Et l'estimation du délai post-mortem en est pas très précis. Alors. Voilà. Ce n'est pas une science exacte. Il y a plusieurs indicateurs qui nous aident. Donc là, généralement, on est en dessous des 24 heures et on est au-dessus des 24 heures. Qu'est-ce qui peut m'aider? L'illividité. Qu'est-ce que c'est? C'est la sédimentation du sang. Donc, après le décès, il y a le cœur qui ne va plus. Donc, du coup, le sang, il va s'alimenter aux endroits qui sont les plus déclives en fonction de la gravité. Donc, là, on a le petit schéma, c'est vraiment ça. En dessous des 6 heures, si je bouge le corps, ça bouge avec. Entre 6 et 12 heures, généralement, quand je bouge le corps, ça bouge partiellement. Donc, je vais avoir des lividités qui sont postérieures, qui sont antérieures. Et au-delà de 12 heures, ça ne bouge plus. Donc, par exemple, j'ai quelqu'un qui s'est pendu. Donc, en toute logique, je m'attends à des lividités qui sont vraiment au niveau des jambes, la partie inférieure du corps, simplement par la gravité. Je vais les dépendre 12 heures après le décès, parce que simplement, on le trouve. Et bien, les lividités, ça ne va pas bouger. Ça va rester vraiment les parties inférieures. Et là, je vais pouvoir dire, par exemple, si on ne me communique pas qu'on l'a peut-être trouvé pendu, qu'il y a un petit problème. Aussi, je vais pouvoir dire, est-ce que cette personne a été mobilisée par les premiers intervenants, surtout si le décès, s'il y a eu plus que 12 heures entre le délai où on trouve ce corps et le décès. Donc ça, c'est des choses qui peuvent quand même être bien utiles. Puis la rigidité cadavérique, c'est simplement un processus physiologique aux muscles propres et qui va également se résoudre simplement avec la putréfaction. C'est maximal aux alentours de 8 heures, plus ou moins. Puis la température rectale. Alors, température rectale et température ambiante, c'est deux trucs qui sont importants. À partir de 24 heures, j'estime que la température rectale, c'est la même chose que la température ambiante. Qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir un plateau initialement, pendant 2-3 heures, ensuite par différents mécanismes de convection qui va être accéléré par différents éléments de l'environnement. Est-ce que c'est une personne obèse? Isolant. Est-ce qu'il a 5 couches de vêtements? Isolant. Est-ce qu'il est nu? Est-ce qu'il a l'air libre? Donc ça, c'est toutes les choses qui vont jouer. Est-ce qu'il est sous eau? Donc ça part aussi. Et donc ensuite, ça va dégrader environ 1 degré par heure, plus ou moins. 0,8 degré. Et puis jusqu'à ce que c'est équilibré avec la température ambiante. Puis le problème, c'est qu'il n'y a pas tout le monde qui part à 37 degrés. J'ai quelqu'un qui a la fièvre, j'ai quelqu'un qui hypotherme. Je vais avoir des graphes qui sont un peu différents. Donc ça, c'est important d'intégrer tout ça. Par contre, je vais être bien embêtée quand c'est au-delà de 24 heures. Alors là, c'est la putréfaction. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est un peu un graphe qui montre. Vous décédez, vous allez avoir une prolifération de bactéries, simplement. C'est ça qui fait... Donc avec la prolifération bactérienne, vous allez avoir une formation de gaz, vous allez avoir une circulation post-hume, on appelle ça, et ça va gonfler, simplement. Donc ça va être pas très beau non plus, ça va devenir vert, mauve, ça va puer. Vous allez avoir des liquides agneux, donc des liquides putréfactifs qui se forment au début à part de phlectènes, donc des bulles, qui vont rompre et qui vont donc inonder l'endroit à laquelle se trouve le corps. Par contre, les insectes trouvent ça très appétissant. Donc tout ce qui est mouche, ça va arriver très rapidement. Maintenant, il commence à faire beau, donc on a de nouveau de plus de larves d'insectes qui sont sur place. Par contre, un endroit qui est hermétiquement fermé, il faut aussi que les mouches rentrent. Donc ça, parfois, où on est vert, vous avez, à partir de certains degrés, vous n'avez pas de mouches, simplement pas d'insectes. Les fourmis, ils hibernent, donc, par exemple dans un endroit extérieur. Et puis au fur et à mesure de la putréfaction, vous allez avoir simplement d'autres insectes qui arrivent. Et donc là, parfois, ça peut être utile de faire venir un entomologue. Donc ça, c'est de la putréfaction. Il n'y a pas que la putréfaction en tant que telle, il y a également différents processus. Momification, en cas d'un air, peu importe si c'est chaud ou froid, il faut que ce soit sec. C'est vraiment la sécheresse que vous avez. En Italie, ils ont une des abbayes où ils ont des moines qui sont momifiés. Maintenant, avec le plus en plus de touristes, si on respire, il y a l'humidification. Et donc du coup, ces corps commencent à s'altérer. Donc ce n'est pas un processus qui est fixe, ça peut encore modifier au fur et à mesure. Adipocire, c'est en fonction des milieux qui sont liquides. Quelqu'un qui est submergé sous eau, c'est simplement la saponification des acides gras. Ça pue beaucoup, et c'est pas toujours très beau à voir, mais voilà, ça existe. La crémation, quelqu'un qui est dans un incendie, ça va malheureusement être un peu cramé. Puis, putréfaction, ce que je vous ai expliqué avec tout ce qui va avec... Donc les chiens-chats, faut s'en méfier aussi. Hein. S'ils trouvent plus rien à la maison, le corps, ça paraît très appétissant parfois. L'autopsie maintenant. Donc, il y a deux types d'autopsies. On a les autopsies hospitalières, on a les autopsies médico-légales. À quoi ça sert ? En premier lieu, déterminer la cause de décès. Par contre, vous avez également dans le milieu hospitalier, est-ce que la personne a répondu à son traitement ? Par exemple, c'est quelqu'un qui a un cancer ou ils ont essayé de nouveaux traitements et ils veulent voir la réponse. Est-ce que ce que nous, on a comme suspicion, est-ce que c'est vrai ? La recherche, simplement, donc également l'évolution d'une maladie, surtout sur le plan neurodégénératif, donc ça, c'est un peu plus spécifique. Médecine d'assurance, ça passe parfois chez nous. Par exemple, les accidents de la voie publique, qui rembourse ? Est-ce qu'il a fait un infarct avant d'être accidenté ? Est-ce qu'il est mort suite à l'accident ? Pareil pour les accidents de travail. Donc, ça, c'est si vous mourrez sur votre lieu de travail et qu'il y a une suspicion que vous avez fait une mort naturelle avant, que c'est ça qui a causé que vous êtes tombé du toit, les assurances risquent de ne pas payer parce que ce n'est pas un accident de travail. Et donc là, parfois, c'est le tribunal de travail qui nous requiert. Formation du corps médical, les dissections simplement. Bac 2, bac 3 dans les formations, on fait les dissections sur cadavres, des dons de cadavres qui sont faits à l'université et sur lesquels les étudiants s'entraînent. Alors, chez nous, ça se passe comment ? Il y a des recommandations européennes qui disent qu'il faut avoir deux médecins légistes, simplement à quatre yeux, on voit un peu plus. À deux cerveaux, on réfléchit un peu plus loin. Quelqu'un a peut-être une expérience qui est meilleure que l'autre. Ça permet aussi de travailler avec les nouveaux assistants, de les former correctement. Donc, deux médecins légistes. Qui est là en plus ? Il y a donc le laboratoire, donc l'inspecteur du laboratoire de la police technique et scientifique, qui nous aide à faire les photos, qui fait également des prélèvements. Par exemple, si on n'a pas fait le curage sur place, le curage sous-ingale, on peut toujours le faire à l'autopsie. Qu'est-ce qu'il faut juste faire ? Il faut mettre des sacs poubelles en papier. Tout ce qui est plastique, vous allez avoir de l'humidité, et l'humidité, c'est l'ennemi de l'ADN. Donc on fait tout en plastique, en papier. Pareil pour s'ils veulent saisir des vêtements, ça part en sac en papier. Jamais du plastique. Si c'est un corps qui est non identifié, il y a quelqu'un du DVI, Disaster Victim Identification, qui va également être sur place. En fonction de l'affaire, on a des agents de la police locale qui sont parfois intéressés. On a également les enquêteurs, donc ça c'est DR6, ça c'est au niveau police fédérale, et parfois au niveau de la zone de police, on charge en fonction du dossier. Parfois magistrats, rarement, ça arrive, puis nos étudiants, nos stagiaires. Donc ça, ça peut parfois faire beaucoup de monde, surtout si c'est une affaire un peu plus intéressante. Puis tout ce qui est fusillade, on a également l'expert balistique qui va venir. L'examen externe, donc on va faire comme sur place l'examen externe, sauf qu'on a des meilleures conditions, meilleure lumière, on déshabille le corps, les vêtements vont éventuellement ou non être saisis en fonction, et on va pouvoir faire juste un meilleur examen. Donc je n'ai pas les conditions sur place, parfois mauvaise lumière, il pleut. On est un peu pressé par le temps parfois, et donc ici je vais vraiment pouvoir me laisser le temps et on va prendre des mesures et des photos de tout. Donc ça, c'est vraiment la documentation, c'est une grande part de documentation de notre métier, donc vraiment faire des photos de tout. Ensuite l'examen interne. La dissection, donc il y a différentes techniques de dissection, c'est souvent les mêmes qu'on utilise. Puis ce qui est important, c'est les prélèvements, prélèvements tox, prélèvements microscopiques et prélèvements ADN, qui sont ADN qui est fait par le laboratoire. Et puis le reste, ça va être pour nous. Toxicologie, ça part vers le laboratoire de toxicologie qui est souvent l'INCC ici en Belgique. Il y a également d'autres instituts qui font, donc ça c'est le magistrat qui choisit. Nous, on fait les prélèvements, on dit que ça a été fait, on dit où ça se trouve, et c'est le magistrat qui peut décider vers quel institut ça part. Ensuite, comme j'ai dit, les méthodes de dissection, c'est un peu en fonction. On pèse les organes pleins, donc plein, ça veut dire foie. Tube digestif, il n'y a pas de poids de référence, ça n'a aucun sens. Donc c'est vraiment peser pour voir si c'est un poids normal. On fait des tranches de section dedans pour voir si l'aspect, la consistance, par exemple les pneumonies, vous allez avoir un poumon qui est beaucoup plus, une consistance beaucoup plus ferme, vous allez parfois avoir du pus qui sort. Donc ça, c'est des choses qu'on peut voir à l'œil nu et qui peuvent permettre de s'orienter. Ensuite, le bilan lésionnel intérieur. Donc, je m'explique, l'examen externe, par exemple une fusillade, je vais avoir plusieurs orifices, simplement. Alors, je vais mesurer ces orifices par rapport au vertex. Par exemple, si j'en ai un orifice qui est là, je vais mesurer la distance par rapport au vertex, par rapport à la ligne médiane, donc vraiment le milieu, et par rapport au plan postérieur. Et ça, si j'ai un deuxième orifice, je vais pouvoir définir la trajectoire. Si c'est cohérent, enfin, si c'est le même trajet interne. Si j'ai plusieurs trous, ça va être un peu plus compliqué, donc je vais y revenir un tout petit peu après. Donc ça permet vraiment de dire par où c'est passé. Je vais pouvoir déterminer, par exemple, pour plusieurs coups de couteau, quel a été celui qui l'a vraiment tué. Si on a un qui passe par l'aorte, ça, généralement, c'est assez fatal. Donc, voilà. Ensuite, on remet les organes dans le corps, ceux qu'on n'a pas prélevés pour analyse tox et micro. Et ensuite, on referme le corps. À la fin, on rappelle le magistrat, on lui dit les constatations qu'on a vues, et on fait un rapport avec les constatations essentielles, avec les conclusions provisoires. Donc ça, c'est un rapport qui part rapidement pour qu'eux, ils ont quelque chose d'écrit sur lequel ils peuvent se baser. Attention encore, ça change, bravo Malon, Bruxelles, bravo Bruxelles, on le fait d'office, bravo Malon, les grandes affaires. Donc les homicides, on le fait. Voilà. Désolée, j'ai pas de sous-titre, celui-là, j'ai pas trouvé.
Inga.
To the autopsy.
Yeah, to the autopsy. What are you, scared?
Oh, not at all. I'll go. Thanks, guys.
Have fun.
It's a head trauma, right?
Uh-huh.
Mr. Richard Lakin?
Heard you're a man today.
I've observed autopsies before. Once.
As a student through the class?
Then step right up. You see the conclusions on the forearms?
Had to be Andy Morton.
He was trying to defend himself.
What is it?
I don't know, but it's silver, and there's a lot of it.
Might be paint. I'll take it to Trace.
You do that.
Alex?
Mm-hmm?
He doesn't have a head. Where'd the head go?
I'm processing it.
You're boiling it?
I can't determine the type of murder weapon from the injuries to his arms and torso. But... with a shattered mandible, depressed skull fractures, and intracranial imaging, his head may tell us we're hidden. I'm going to remove the soft tissue, get a better look.
Skin. I think I understand why Kelly and Delgro sent me.
You okay, Ryan? Okay, why don't you go on over to Trace, and I'll finish up, okay?
Alors, non, fais pas ça comme ça. Alors ici, le but, c'était, selon eux, de voir les hémorragies intracrâniennes et les lésions qui auraient été causées par un objet qu'on tue, donc un coup par un objet quelconque. Alors, C'est là qu'on peut utiliser l'imagerie post-mortem. Ici, à Bruxelles, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un scan de tous les homicides. En tout cas, on essaye, en sachant que c'est le scan de l'hôpital. Donc, c'est les gens vivants qui passent par le même scan. Donc, on fait ça la nuit. Justement, parce que... Ah oui, oui. Bah, on fait avec ce qu'on peut, hein, on est pauvres ici. Donc... ici, c'est une étude qui montre justement plaie balistique, hein, donc avec entrée et sortie par là. Et en fait, c'est très beau puisque ça permet de faire des belles reconstructions. En quoi ça sert? Bah, justement, nous, ça nous aide puisque si le corps est criblé de plaies entrée, sortie, enfin de trous, parfois c'est compliqué de voir combien de projectiles il reste à l'intérieur. Que ça reste parfois coincé dans les os, ça reste coincé dans le bassin, des endroits qui ne sont pas toujours accessibles à l'autopsie et qui sont très chronophages. Donc une autopsie pour homicide, j'en ai déjà eu 6 heures. Hein. Donc ça prend du temps. Hein. Si vous n'avez pas dormi la nuit, c'est fatigant. Et ça nous aide. Parce qu'on peut voir où sont les projectiles. Parfois, on peut différencier avec les fragments de chemise qui restent éventuellement du projectile. Donc ça permet, et même dans des cas qu'on tue, donc pas projectile par arme à feu, dans des violences contuses, ça permet aussi de voir des empreintes. Est-ce que c'est arrondi, est-ce que c'est triangulaire, donc c'est vraiment si les objets ont été utilisés, et ça permet aussi de cadrer. Donc on peut, avec les scans, on peut mesurer, et on peut également cadrer en fonction de ce que les enquêteurs avancent comme théorie. Ce qui a été utilisé. Donc ça, c'est très utile. Et l'autre avantage, c'est les cours d'assises. Il va y avoir des photos d'autopsie qui vont montrer. Malheureusement, ce n'est pas toujours nous qui choisissons les diapositives. Mais en cas d'une image comme ça, c'est beau et c'est beaucoup moins choquant pour la famille. Parce que n'oubliez pas, il y a la famille qui est juste devant. Donc ça, c'est beaucoup moins choquant et aussi déshumanisé. Vous n'avez pas le visage, vous n'avez pas les caractères, les caractéristiques extérieures qui permettent de voir, ah oui, c'est en effet mon fils ou autre. Donc voilà, à l'autopsie, qu'est-ce que nous on fait? Donc en gros, on coupe derrière l'oreille, de part et d'autre, on récline le cuir chevelu, et en fait, ça donne accès au crâne. Pour ouvrir le crâne, on utilise une scie, c'est des scies de plâtre. En fait, le gros avantage, c'est que ça ne coupe pas à travers le mou. C'est pour ça aussi qu'ils utilisent ça pour ouvrir les plâtres, puisque vous n'allez pas être blessé en dessous. Et donc mon cerveau, il va faire rien lui arriver. Ça va couper à travers l'os, comme du beurre, mais je ne vais pas avoir de lésion du cerveau, donc ça c'est très, très pratique. Et si jamais je glisse, ben je ne me fais pas mal non plus. Alors, en faisant ça, donc du coup ici, je vais juste revenir ici, je vais avoir le cuir chevelu, donc je vais voir s'il y a des ecchymoses, des bleus, des suffusions hémorragiques par coup, qui n'ont peut-être pas laissé de plaies, mais je vais également voir s'il y a des parties de crâne qui sont enfoncées. Et si ça a des caractéristiques, justement, je vais pouvoir documenter ça et aussi refaire des photos. Et ensuite, en enlevant la calotte crânienne, bah, j'ai accès au cerveau et je vois si ça saigne à l'intérieur. Maintenant, madame, elle a tout cramé, elle a cuit, donc vous n'allez plus avoir... Donc tout ça, vous n'allez pas l'avoir. Donc vous êtes passé tout à fait à côté de ce qui était à la base le but. Les seules indications pour avoir le crâne, c'est des victimes qui sont sévèrement mutilées, dans le sens putréfiées. On ne sait vraiment pas reconnaître, on n'a aucune idée qui c'est. ADN, empreinte, allez-y. Puis ADN, faut aussi avoir un ADN de référence avec qui vous voulez comparer si vous n'avez aucune idée. Donc du coup, parfois, ça arrive que les corps vraiment putréfiés, on les cuit, en effet, pour avoir le crâne. Parfois, c'est déjà un squelette à part entière, donc là, on prend le crâne simplement. Ce qui existe aussi, c'est qu'il y a certains insectes, des coléoptères qui sont mangeurs de chair, qui sont utilisés dans le milieu de la taxidermie, justement pour nettoyer les ossements. Et ça existe, que certains utilisent ça. En fait, à quoi ça sert? En fait, il y a des gens qui sont formés pour ça, pour faire des reconstructions faciales. Et donc ça existe, vraiment. Mais on ne coupe pas des gens comme des têtes comme ça. Surtout si, puisque là, il était vraiment en bon état. Donc, il suffit de faire une photo. Hein. Faites une photo, vous publiez ça. Les trucs que vous voyez parfois à la TV, c'est des gens qu'on peut... Oui, il est peut-être mort, mais il n'est pas aussi défiguré pour que les gens soient choqués. Enfin, c'est juste quelqu'un qui dort, entre guillemets, vraiment, parfois. Donc, alors, examen de vivant. J'ai une petite histoire. C'est pas du vrai, hein, c'est fictif. Alors, un beau dimanche, il fait beau, printemps, et je suis appelée, en pleine journée, pour une dispute de voisinage. Alors, il y en a un qui est mort, il y en a un qui est à l'hôpital, et il y a le suspect qui est à l'hôpital aussi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? On va être stratégique, puisque moi, je suis seule. Donc, du coup, il va falloir que j'examine tous ces gens. Alors, le laboratoire, il va être occupé sur la personne décédée. Ils vont prendre les mesures, ils vont faire prélever, ils vont saisir éventuellement les objets qui sont sur place. Donc, ils vont être occupés pendant plusieurs heures. Donc, moi, je ne suis pas indispensable sur place. De toute façon, je ne vais pas pouvoir toucher au corps. Donc, j'ai mon temps à aller à l'hôpital. Bon, les policiers n'ont pas été très intelligents. Ils les ont mis au même hôpital. Ils ont quand même mis un inspecteur à l'entrée de chaque porte. On va éviter qu'ils se croisent. Alors, moi, je sers à quoi ? Donc, moi, je regarde le bilan lésionnel. Bilan lésionnel, je regarde également le délai post-mortem chez la personne défunte. Donc, je vais à l'hôpital et je vais voir Archibald. Archibald qui m'explique donc avoir taillé les haies avec son épouse Myrtille et que pour ce faire, ils ont dû aller sur le terrain du voisin. Et d'un coup, le voisin est sorti, pas très content, en criant, hurlant, et dans la main, il avait un marteau. Bon. Il s'approche et il donne tout de suite des coups à Archibald avec son marteau. Archibald qui essaye donc de se défendre et de tenir, avec la main droite, il tient toujours sa cisaille à haie. Donc il donne des coups avec la cisaille à haie. Entre-temps, Myrtille qui essaye de un peu calmer la situation, qui s'intercale et qui se prend un coup avec le marteau, qui tombe morte. À l'examen d'Archibald, je vois donc plein de bleus ecchymoses et des bleus aux avant-bras, surtout gauche, également un peu à droite. Et ça cadre bien avec ça. Hein. Vous voulez vous défendre, essayer de protéger, vous mettez le bras devant, et c'est souvent l'avant-bras. Hein. Donc ça, c'est très classique pour des lésions de défense. En plus, il se prend une fracture. Ça, c'est l'urgentiste qui me le confirme. Et actuellement, ils sont en attente de l'orthopédiste, justement, pour voir un peu la suite, ce qu'il faut opérer, qu'est-ce qu'il faut faire. Laboratoire toujours occupé sur place. Lui, par la suite, donc, les policiers peuvent aider. Hein. Les policiers, ils ont déjà saisi les vêtements qu'ils mettent justement dans des sacs en papier, pas en plastique. Et éventuellement, prélèvement ADN chez également Archibald, puisqu'il y a eu une dispute entre les deux rapprochés. Donc, prélèvement à Sous-Angeo, éventuellement au niveau des visages, en fonction. Donc, vraiment en cible les endroits où il y a des coups. Parce que parfois, si c'est un bleu qui est non formé, on appelle ça. Vous avez des bleus qui font vraiment une parfois avec une zone de d'épargne au milieu, avec deux, on appelle ça un rail de tram. Donc ça, c'est un objet, enfin un peu comme un truc comme ça, ou parfois les trucs de police, on appelle ça les matraques. Donc ça, c'est assez caractéristique. Enfin, pour un objet simplement long, je ne vais pas dire si c'est une matraque ou si c'est un bâton ou quoi ou qu'est-ce, mais je vais pouvoir dire que c'est un objet long. Donc parfois aussi, il y a des plaies arrondies. Donc ça peut faire tête de marteau. Donc ça, c'est des choses qui permettent d'orienter. Si c'est non orienté, enfin non formé, si c'est vraiment juste un bleu, moi, je ne vais pas pouvoir dire. Je vais juste pouvoir dire si en effet, pas un coup. Bah. Donc voilà. Donc ça, c'est des petites choses qui peuvent aider. Ensuite, j'ai fini avec Archibald, je vais voir Théodule. Théodule qui m'explique un peu similaire. Donc lui, il explique avoir fait ses travaux chez lui, raison pour laquelle il avait son marteau. Ensuite, il voit d'un coup ses voisins sur son terrain, ce qu'il n'apprécie pas. Donc il va se rapprocher pour demander ce qu'ils foutent là. Lui, il explique qu'il était assez calme, qu'il est venu vers eux, sauf que Archibald, il s'est vite excité et il lui a donné des coups avec la cisaille. Lui, rebelote, il se protège également avec l'avant-bras. Et dans l'autre, il tient son marteau, donc il essaie de se défendre comme il peut. Puis il y a Myrtille qui s'intercale, sauf que lui, il dit, il a juste repoussé. Il n'a pas donné de coup, il a juste repoussé, elle est tombée en arrière sur un caillou, enfin sur le mur. Pareil, je vais voir le médecin qui s'en occupe de lui, qui me dit, oui, il va juste falloir faire une suture plan par plan, donc c'est rien de profond, il n'a pas beaucoup saigné, donc il va s'en sortir très très bien. Moi, je fais des photos. Donc, pareil, chez Archibald, je fais une documentation photographique des lésions. Et je dis de nouveau, oui, en effet, lésions de défense, j'ai des plaies qui sont à bord net. Donc, en effet, ce n'est pas une plaie contuse. Plaie contuse, on a des bords irréguliers, c'est différent. Des bords nets avec, en profondeur, c'est également assez net. Donc, il n'y a pas de pont tissulaire, on appelle ça. Et c'est des plaies par paire. Donc, ça va bien avec une cisaille à haie. Ensuite, donc, moi, je devais devoir dire, est-ce que c'est cohérent ? Alors, Moi, je vais être incapable de dire qui a commencé. Ça, c'est aux enquêteurs de se débrouiller. Ça, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est est-ce que les plaies que j'observe, ça cadre, oui ou non? Oui, j'ai les deux, d'ailleurs. Par contre, il me manque encore, donc vous avez remarqué, il y a un point qui est assez différent. Est-ce que Myrty s'est pris un coup par le marteau ou est-ce que Myrty est tombée en arrière? Et donc là, on va aller sur place. Alors, j'examine Myrty, elle n'a pas de lésion de défense, elle n'a rien d'autre, elle a uniquement une plaie assez haute sur la tête. Alors, en règle générale, on a ce beau schéma, très utile, qui s'appelle la ligne du chapeau. Et en fait, c'est justement où votre chapeau se met, c'est les endroits qui sont assez proéminents. Vous tombez, vous allez vous heurter les endroits proéminents. Par exemple, alcoolique qui tombe comme ça, ça va être front, nez, menton. Très classique. Pareil, s'il tombe sur le côté, ça va être la joue. Ça va être pas un œil au beurre si vous avez rien au-dessus. Hein. Ça va pas être ça. Alors, en règle générale, j'ai dit, parce qu'ici, vous avez un alcoolique qui tombe dans les escaliers, parce qu'il est rentré tard et qu'il est complètement pété. Il va dévaler les escaliers. Et il risque de tomber comme ça, simplement avec le rebord des escaliers. Donc ça, c'est un peu cas par cas. Mais en règle générale, ici, c'est trop haut pour une chute simple. Simple, hein, pas escalier ou des trucs comme ça. Mais ça, c'est trop haut. Puis ça, c'est un très beau schéma aussi. Alors, un premier coup, il tombe. Deuxième coup. Une fracture, deuxième fracture. Je vais pouvoir différencier laquelle était la première. Comment? Alors, ici, c'est comme une toile d'araignée avec des traits de fracture. Et bien, le deuxième ne va jamais dépasser la première. Vous voyez? Pareil ici. Et ça, c'est des choses qui sont très utiles en radio avec mes reconstructions 3D. Ça, c'est très beau à voir en radio. C'est plus compliqué avec un crâne défoncé, malheureusement. Mais en radio, vous allez, c'est avant autopsie, donc personne n'a touché à ce corps, donc c'est plus beau. Alors, et tout ça, je voulais juste poser les questions à la fin, ça va? Merci. Donc, ce qui est important, c'est la qualification des faits pour le magistrat. Attention, c'est de nouveau magistrat, c'est pas moi. C'est pas moi qui va dire si ces coups et blessures ont entraîné le décès, meurtre ou homicide, assassinat, c'est pas moi qui va dire si c'est un simple coup et blessure ou si c'est une tentative de meurtre, ça c'est pas moi. Moi, je vais juste pouvoir dire, attention, il s'est pris quand même plusieurs coups à travers au niveau de la tête, c'est une région vitale, tout le monde sait que ça peut être dangereux, donc. Puis, j'ai quelqu'un qui a 10 plaies par arme blanche dans le dos, ah ben, il n'a pas couru lui-même dans le couteau 10 fois, hein. En plus, si j'ai une plaie avec une ecchymose autour, ça peut être la garde de l'arme. Vous avez le couteau et vous avez la garde. Ah bah, si c'est enfoncé avec beaucoup de force, vous pouvez avoir une ecchymose qui forme simplement, qui est autour de la plaie. Et ça peut, c'est une certaine force qui a été utilisée. Donc ça, c'est pas la personne qui accidentellement se prend un truc et qui dit « aïe ». Enfin, non. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec Archibald et Théodule? Donc, Myrty, elle part à l'autopsie. Et puis, les deux là. Alors, il y a des articles. Ici, on est au pénal. Donc, ça, c'est important. Pénal et le civil, c'est deux choses différentes. Pénal, c'est vraiment le but de punir l'auteur. Alors que le civil, c'est plus pour indemniser la victime. C'est plus pénal, c'est niveau sociétal, si vous voulez, alors qu'au niveau civil, c'est vraiment la victime. Donc, ici, on est toujours au pénal. Alors, il y a deux articles de loi qui sont importants pour tout ce qui est vivant. C'est le 399. Alors, si les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnelle, alors vous avez cette notion de punition. En fait, ça veut dire, attention, il n'y a pas total. Hein. Donc, moi, je ne suis pas obligée de reconnaître total. Total, c'est uniquement pour moi quand ils ont été à l'hôpital qu'ils ont été incapables de rien faire. Donc, vraiment, hôpital, hospitalisé pendant, je ne sais pas, 10 jours ou un truc ainsi. Alors ça, il n'y en a aucun des deux, a priori. Donc même avec sa fracture du bras, si ça peut être plâtré, il va pouvoir rentrer. Théodule, ça va être suturé, hop, il va pouvoir quitter. Donc ça, aucun des deux. Par contre, Archibald, probablement environ 6 semaines plâtre, donc on va être parti pour 6 semaines, s'il récupère. Puis Théodule, bah, probablement les fils qui vont être enlevés 10 jours après, donc 10 jours, plus ou moins. Également, ce n'est pas de complications. Donc ici, a priori, il n'y avait pas de lésion de tendon, donc normalement 10 jours. Ensuite, on a l'article 400. Ça, c'est important, parce que, vous voyez, on parle de 2 ans à 5 ans. Hein. Ce n'est pas rien. Alors, ça, c'est si les résultats des coups ou des blessures, soit une maladie paraissant incurable, incapacité de travail personnel de plus de 4 mois, on y est vite, on y est assez rapidement. Soit la perte de l'usage absolu d'un organe, ou une mutilation grave. Donc, alors, peut-être sur le plan physique, mais attention, il y a toujours le plan psychologique. Alors, Théodule qui me dit, au début, moi je vais devoir dire, il faut que je les revoie dans 6 mois. Parce que je les ai vus immédiatement après les faits, mais moi je ne peux pas dire s'il y a un qui fait un syndrome de stress post-traumatique, ou peut-être une complication, hein. Archibald, peut-être qu'il a été opéré, peut-être que c'était une fracture quand même un peu plus importante, qu'ils ont dû mettre plaque vis, que peut-être qu'il est infecté, peut-être que ça n'a pas guéri comme il fallait, et qu'il se prend encore de la kiné 6 mois après. Je n'en sais rien. Donc il va falloir que je les revoie tous les deux, 6 mois après, plus ou moins. Pourquoi 6 mois, pourquoi pas 4 mois? Simplement, comme ça, j'ai une petite idée, un petit 2 mois qui me permettent quand même de voir s'il y a encore des trucs en cours ou pas. Parce que si je vais trop rapidement 4 mois, je risque qu'ils n'ont pas les documents et que ici je leur laisse au moins le temps, puisque moi il me faut les documents médicaux, donc ça c'est important. Donc je les revois 6 mois, à Théodule qui commence à me dire, enfin toi guéri, toi bien guéri, sauf qu'il ne dort pas, il fait des cauchemars, il fait des flashbacks, il commence à pleurer devant moi, il dit qu'avant il n'avait jamais eu de suivi psy et que maintenant bah, il voit quand même un psychologue, qu'il a peur de mourir, qu'il est hyper vigilant, qu'il a dû déménager. Attention, hein, lui, a priori, on est le suspect pour le meurtre de Myrty. Mais c'est aussi une victime. C'est une victime puisqu'il s'est pris les coups d'Archibald. Et comme de nouveau, ça va être le problème justice. Hein, ça va être pas mon problème. Moi, je vais juste dire... oui, en effet, oui. Parce qu'il voit un psy. Il a encore des soins qui sont en cours, qui sont liés aux faits. Et donc... Donc moi, je vais devoir les reconnaître. Alors, cette histoire de mutilation grave, je ne suis pas toujours obligée de les voir 6 mois après. J'en ai eu un... Pour juge, généralement, on les voit plus rapidement. Donc ça peut être 1 mois après les faits. Il s'est pris... donc, ils l'ont battu avec un bâton en bois. Sauf qu'il y avait un bout un peu plus aiguisé qui est parti dans l'œil. Donc, il a perdu son œil. Et je n'ai pas... pouvoir mettre en usage absolu d'un organe, puisqu'attention, on a 2 yeux, donc il va toujours voir l'autre œil, mais je vais pouvoir le faire passer en mutilation grave, et il va plus jamais voir avec cet œil, donc ça, je sais qu'on est bien au-delà des 4 mois. Donc ça, c'est des cas particuliers où je ne suis pas obligée de les revoir 6 mois après. Mais sinon, voilà. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Donc, merci beaucoup pour la présentation. Moi, donc, vous aviez dit quand il y a une mutilation grave, pas besoin de revenir 6 mois après, mais s'il y a mutilation grave et un autre truc, comme de toute façon...
C'est où ? Il suffit, si j'ai une mutilation grave, que ça ne va jamais guérir, c'est suffisant.
Ok, oui, donc c'est, on s'en fout s'il y a plus
gros,
que ça.
En gros, il faut que les séquelles restent 4 mois après. C'est pour ça que j'ai dit qu'on y est assez rapidement, parfois.
Ok, voilà. Merci.
Oui, bonsoir. Merci pour la présentation. Moi, j'avais une question pour une famille d'un défunt. Quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour avoir accès à une autopsie ? Est-ce que parfois les autopsies sont refusées de manière frauduleuse ? Quelles sont les conditions qu'il faut remplir ? Est-ce qu'on a toujours accès à une autopsie ou il faut remplir certaines conditions ?
Non, alors comme j'ai expliqué, ça dépend. Si vous parlez d'autopsie privée, on en accepte parfois, mais souvent c'est aussi des affaires où on est intervenu nous-mêmes. J'ai eu il n'y a pas longtemps un jeune accidenté et moi j'ai juste dû aller faire la prise de sang, puisque au niveau de l'enquête tout était assez clair et je suis d'accord avec eux. Donc nous parfois dans les accidents de voie publique on va uniquement faire prise de sang justement pour au niveau de l'enquête puisque ils veulent voir si cette personne a été sous influence au moment de l'accident. Donc parfois les familles ils ont un peu plus difficile avec ça puisqu'ils pensent qu'on n'a pas été suffisamment loin et là il y a toute la problématique puisque moi je suis soumise sous secret médical mais également secret judiciaire. Donc moi j'ai les éléments de l'enquête, mais je ne vais pas pouvoir communiquer. Donc si moi on m'appelle pour autopsie privée, moi je vais devoir dire non, parce que c'est des éléments. Moi j'étais impliquée au niveau pénal, donc ça va être compliqué. Donc là généralement on refuse. Je suis appelée sur place. Pour moi si tout est clair, moi je ne vais pas demander une autopsie. Si j'ai quelqu'un, même s'il est jeune, s'il a des problèmes cardiaques, qu'il est connu, qu'il est suivi, Ben, je pense que la probabilité qu'il est mort de ça est quand même beaucoup plus grande, surtout si j'ai rien à l'examen externe. Si j'ai vraiment rien, il y a certains arrondissements, les jeunes de 30 ans, s'il a rien, ils ne font pas, même si on ne sait pas de quoi il est mort. Simplement parce qu'on n'a pas le temps, qu'on est que X personnes par arrondissement, et qu'une autopsie, ben, ça prend quand même du temps, c'est du travail. C'est du temps où on ne passe pas sur nos dossiers, parce que tout ça, il y a à chaque fois un rapport que je dois écrire. Donc ça dépend vraiment cas par cas. Si moi j'ai vraiment pas de signe d'inquiétude, pareil, quand j'ai un cas où sur place j'ai vraiment produit stup, qu'il n'y a pas de signe de violence, bah, c'est un peu dégueu, mais bon, c'est, puisque c'est juste l'appartement qui est sale, je vais pas forcément... Maintenant, si j'ai un doute qu'il y a peut-être encore une autre personne qui a pris la fuite et qu'on part dans une histoire de non-assistance personne en danger, alors là, c'est autre chose. Mais...
merci beaucoup. La question que j'avais, c'est, j'imagine que c'est une discipline qui évolue beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des pratiques, des techniques, on en voit dans quelques extraits vidéo, des techniques qui soit ont été abandonnées, soit des techniques qui sont arrivées récemment, et dans quelle mesure, comment est-ce que vous évaluez si une nouvelle technique est fiable ou pas pour déceler des mystères qui demeuraient avant qu'on ait ces techniques-là, par exemple.
Alors, de notre point de vue, ça n'évolue vraiment pas beaucoup. On est fort limité par tout ce qui est financement. Donc, comme j'ai dit, nous, on utilise le scan des cliniques, simplement. Dans d'autres instituts, ils ont leur propre scan, mais c'est des machines qui coûtent cher, l'entretien coûte, c'est des choses que nous, on ne sait pas financer, simplement. En Suisse, ils font pas mal de projets, mais c'est plus milieu de toxicologie, ADN, donc c'est pas vraiment médecine légale en tant que telle. Puisque ce qu'il faut dire aussi, donc pour faire des recherches, il faut aussi parfois des comités d'éthique. Alors à l'époque, années 50, 60, c'était un peu, c'était moins précis qu'aujourd'hui. Et donc du coup, ce qui revient parfois, c'est les enfants secoués ou les chutes chez les enfants. Parce que, est-ce qu'une chute d'une table, ça peut causer cette fracture qu'on a observée chez l'enfant? Ou est-ce que c'est de la maltraitance? Et bien, dans les années 50-60, il y a des études qui ont été faites sur des dents de fœtus qu'ils ont laissé tomber, simplement. Ou ils ont regardé après ce qu'il y avait. Aujourd'hui, il n'y a aucun comité d'éthique qui va dire oui à ça. Donc, on est plus limité que... Parce que maintenant, on travaille avec des modèles biomécaniques. Il y a des matériaux qui ont été inventés, justement, pour imiter la résistance de l'os et des choses comme ça. Donc, c'est très, très compliqué. Et on a pas les... C'est pas un milieu qui est très financé, en fait. C'est ça, le problème. Parce qu'on n'est pas, des frais médecins, puisqu'on ne soigne pas. On est un peu à cheval entre médecine et justice. Les gens, parfois, ne comprennent pas tout à fait ce qu'on fait. Si on n'est pas... si je ne suis pas sur mon bureau, je ne fous rien. Enfin... c'est parce que les gens, ils ne savent juste pas. Et donc, du coup, c'est vraiment malheureusement un milieu qui n'est simplement pas financé.
Okay. Donc, par exemple, la technique de cuire la tête pour...
Ça, c'est plus taxidermie encore. Et ça n'a aucun sens. Comme j'ai dit, c'est complètement aberrant. Vous cuisez la tête, mais tout ce qui est hématome, vous ne le verrez plus. Hein. Donc...
Merci. Bah, justement, au niveau de... Enfin, j'ai deux questions. La première, c'est au niveau des scans... C'est quel type de scan qui est pratiqué? C'est une radio X ou...
Non, c'est un scan. C'est un vrai scan. Hein.
C'est un vrai scan, ok.
On ne peut pas faire l'imagerie parce que le projectile, il va s'envoler.
Hein. C'était ma question, ouais.
ils le font en Suisse, ils le font parce que tu peux faire des... ils ont des techniques assez poussées, surtout au niveau tox, donc, et tout ce qui est diabète. Tu peux voir sur les densités du cerveau s'il y a par exemple, un trouble ionique ou en lien avec les acidocétoses, tu vois, alcoolique ou diabétique.
Ok.
Donc ça, il y a des études qui sont en cours, mais c'est de nouveau plus tox.
Merci. Et alors la deuxième question, justement, mais tu l'as un peu évoqué, est-ce qu'il y a un protocole différent quand c'est un enfant ou un bébé, donc en toxico, en... Voilà, en quoi le protocole est différent pour des raisons soit scientifiques, soit légales, quoi.
Alors, bébé, on a le protocole de... Donc, c'est la mort subite du nourrisson. Donc, là, généralement, les hôpitaux, quand il y a un enfant, quand ils sont appelés pour un enfant ou un bébé, parfois encore un jeune adulte, généralement, ils vont très, très loin au niveau réanimation, simplement parce qu'il est jeune d'âge. Donc, souvent, ils les prennent à l'hôpital, ils essayent encore, même s'il n'y a pas beaucoup de chance, ils essayent encore faire de prélèvements, parfois de ponction lombaire. Donc, vraiment des prélèvements biochimiques qui permettent de voir s'il y a quelque chose d'infectieux. Ils font des cultures, ils font... Donc, tout, c'est des choses qui sont en train. Et normalement, pour tout ce qui est mort subite de l'enfant, on devrait, si ça n'a pas été fait, par exemple, qu'en effet, il est rigide et qu'il n'y a aucun sens d'encore transporter à l'hôpital, qu'on fasse des prélèvements donc microbiologiques sur le cadavre, si tu veux. Donc, ça, en effet, c'est des protocoles qui sont différents parce qu'on a ce syndrome de mort subite, justement avec différents... où c'est important de faire ce genre de prélèvement. Et donc là aussi, on va beaucoup plus pousser au niveau microscopique. Donc on va prendre plus que ce qu'on prend en standard adulte.
Oui, merci beaucoup. J'ai une question par rapport aux bandelettes autocollantes qu'on a vues au début. Donc on en met partout sur la surface de la personne qui est décédée, sur les vêtements aussi, si j'ai bien compris. Mais est-ce qu'on en met aussi en dessous?
Oui, alors on commence par l'intérieur. Donc, par exemple, il est couché sur le ventre. Là, on va commencer par le dos. Ensuite, ouais. Moi, je commence à voir le dos, okay. Simplement. Donc, je retrousse un peu les vêtements, je regarde s'il y a quelque chose en dessous. Mm-hmm. Je vais déjà prendre, puisqu'il est couché, je vais prendre la température rectale. Mm-hmm. Et ensuite, on va le tourner. Ensuite, de nouveau, je ne touche plus et ils font le taping sur la face antérieure.
Ok, parce que par rapport au schéma, justement, ça m'a choquée. Je me suis dit, mais...
Non, donc, on fait d'abord ce qui est exposé.
Ouais.
Ce qu'on fait aussi en plus, parfois, c'est les écouvillons. Par exemple, si j'ai vraiment de la violence au niveau du cou, on fait des écouvillons ADN. C'est un peu comme des cotons-tiges pour les oreilles.
Oui,
quoi.
Oui.
Enfin, en gros, donc ça, on le fait aussi sur les surfaces où on a vraiment des signes, où on se dit...
Ouais. Et par rapport... Excuse-moi. Je voyais dans l'extrait, le monsieur, il avait une barbe assez importante. Et, ça, normalement, c'est pas autorisé. Il doit avoir un cache-barbe. Hein.
Non, on fait des masques.
Ah, les masques chirurgicaux suffisent.
Ce qu'ils ont, donc j'en ai pris un. Voilà. C'est sexy tout ça.
Ah, ça, c'est la Tyvek, ouais, ça je connais.
Donc, c'est les Tyvek avec le truc pour les cheveux. Ouais. Il y a aussi les gens du labo qui utilisent encore les filets, comme on a chez les
Hauts
Bouchers. Donc, il y a ça, et puis avec les gants et avec les overshoes. Donc, il y en a deux. Il y a les classiques bleus, les trucs qu'on achète un peu partout.
Oui.
Mais on a aussi celui labo où ils ont un profil en dessous. Parce que si jamais on marche du sang, ils savent voir, c'était un de nous.
D'accord.
C'est pas une trace qu'il a sur place.
Oui, oui, ok. Oui, c'est logique.
Donc voilà.
Merci beaucoup pour votre exposé. J'ai aussi deux petites questions. La première, c'est que donc, dans votre présentation, vous avez parlé de toute votre intervention qui se passe essentiellement au moment des faits ou peu après, voire dans les 6 mois qui suivent. Est-ce que ça vous arrive aussi de faire des reconstitutions donc dans le cadre de la procédure pénale? Et en deuxième lieu, vous avez dit aussi que vous ne vous prononciez pas sur la culpabilité de l'auteur ou de son innocence. Malgré tout, vous savez certainement que en fait, votre rapport va avoir une importance considérable dans le cadre du procès, que c'est sans doute ça qui va déterminer si le juge va décider oui ou non qu'une personne est coupable. Dans ce cadre-là, il peut y avoir des controverses entre médecins. Et je me demandais comment ça se passait éventuellement des contre-expertises, si vous aviez un dialogue avec d'autres médecins quand il y a des points qui sont controversés, comment ça se passe dans ces situations qui sont un peu, je suppose, plus nuancées, plus particulières qu'un coup de couteau létal à une partie dans un organe létal, quoi.
Alors, commençons par la reconstitution. Donc, lui, en effet, on va sur les reconstitutions avec avocat, si on est convoqué. Hein. Donc, sur réquisitoire du parquet ou juge en fonction. Reconstitution, c'est le juge. Donc, oui, on va sur place. Donc, en fait, nous, idéalement, on a fait la descente, on a fait l'autopsie. Peut-être qu'on a fait l'examen d'un suspect, qu'on a fait l'examen d'une victime survivante. Donc, on est impliqué dans le cas. Et les reconstitutions, ça se passe en fonction souvent le suspect, mais également peut-être témoin. Donc il y a plusieurs versions qui sont jouées avec des acteurs des services de police. Donc il y en a un souvent qui joue la victime et éventuellement d'autres personnes qui auraient été sur place. Et c'est vraiment la personne qui dit « Ah, cette personne était là et puis il y avait ça qui s'est passé ». Et tout est filmé. Souvent, tout est filmé par le laboratoire. Donc il y a beaucoup, beaucoup de monde dans ces genres de choses. Et on refait ça à l'endroit où ça s'est passé. Donc... généralement, l'appartement ou quoi, c'est mis sous scellé. Donc, on va sur place, on rejoue ça. Et puis, donc moi, je fais un rapport sur ça et je dis si c'est cohérent, ce qu'il raconte, c'est cohérent avec les lésions que nous, on a constatées ou pas. Ou s'il y a peut-être des choses, c'est pas tout à fait sûr. Et j'ai aussi le droit de poser des questions. Donc, il y a tout le monde qui va poser des questions à la fin. Moi également. Et puis pour tout ce qui est... je ne sais pas si elle a répondu à votre question.
Très bien, merci.
Puis les contre-expertises, alors c'est bien parce qu'on n'est pas aux États-Unis. Le problème des États-Unis, c'est qu'il y a des experts qui sont financés par la partie adverse et il y en a qui sont vraiment malhonnêtes et qui sont prêts à dire n'importe quoi, à tordre les éléments scientifiques dans tous les sens pour que ça aille en faveur de la partie. Heureusement, ici, on n'est pas... Enfin, pas tous, hein. Quelques-uns peut-être, mais on a beaucoup moins. Donc oui, des contre-expertises, ça existe. Les contre-expertises qui sont passées en couille, entre guillemets, c'est ceux où il y a eu des couacs dans l'enquête, généralement. Donc il y a vraiment des moyens pour un peu prendre cet élément-là ou cet élément-là en disant « Hein, mais ça, ça n'a pas été documenté. » Donc ça, c'est vraiment des choses qui risquent. Et le problème, c'est que le plus de contre-expertises vous allez, parce que meurtre homicide, ça part en cours d'assises, ça. Donc vous allez avoir un jury populaire. Des gens qui n'ont pas forcément de background médical, scientifique, tout, monsieur, madame, tout venant. Et ces gens-là, vous allez mettre trois experts toute une après-midi bourrés d'expertise, bah, ils vont la tête qui explose. Donc ils vont se rappeler de celui qui était le meilleur orateur, finalement. Et donc ça, c'est des choses qui peuvent en effet être problématiques.
Merci. Moi, ma question, elle est plutôt par rapport aux vivantes. J'avais toujours entendu parler... qu'en cas d'agression sexuelle, de viol, il était conseillé à la victime de mettre ses vêtements dans un sac plastique et d'aller directement à la police avec les vêtements dans un sac plastique. Est-ce que vaut pas mieux le mettre dans un sac en papier. Papier ?
Oui.
D'accord, super. Merci. Oui.
J'allais poser une question un peu en rapport avec ça. Quand j'étais encore en thèse en labo de microbiologie et qu'on faisait même de la biologie moléculaire, on travaille toujours avec des pipettes et des tips en plastique. Ouais, j'ai jamais entendu que le plastique...
assez rapidement. Mais en fait, quand vous allez stocker les vêtements, quand vous allez stocker, par exemple, ce qui est assez classique, c'est les écouvillons, qui sont dans un truc en plastique. Hein. Mais en fait, parce que c'est aussi ceux-là qu'on utilise pour les écouvillons buccaux, pour les prises ADN, finalement. On fait les tests de paternité, bah, c'est avec ça qu'on travaille. Et bien, il faut faire des incisions dedans. En fait, pour permettre l'évaporation, l'humidité. En fait, vous gardez l'humidité, ça va détruire l'ADN au bout d'un... Peut-être pas dans les secondes ou minutes de la manipulation, mais par après, au long terme.
Surtout mais en papier, si on les analyse, ça ne peut pas plus facilement se dégrader que...
Mais en papier, ça n'évapore pas. En fait, il n'y a pas d'évaporation.
Okay.
En fait, le papier peut encore absorber, donc du coup, ça ne reste pas humide à l'intérieur. L'ennemi de l'ADN, c'est vraiment l'humidité et UV. Donc ça, c'est des choses qui...
Ok, merci.
Il faut faire attention.
Toi, vas-y. Juste une question. Est-ce que dans les médecins légistes, il y a des spécialités comme pour les vivants, c'est-à-dire cardiaque, pour le cerveau et tout ça?
Non, on est tellement peu... non.
Oui, généraliste.
Alors, j'ai une question un peu plus pointue. Après les nombreuses lésions cardiaques qui ont été constatées après des vaccinations Covid-19, même chez des jeunes gens qui étaient auparavant en bonne santé, est-ce qu'on a maintenant des moyens de déterminer si des myocardites ou des péricardites sont dues au vaccin par rapport aux lésions cardiaques? Ou est-ce que c'est plutôt au niveau toxicologique qu'on peut voir si c'est dû au vaccin ou si c'est une myocardite qui serait plutôt due à des maladies ou, on va dire, au mode de vie de la personne?
Mais déjà, en faisant l'analyse microscopique, on va pouvoir voir le type de cellules qu'il y a dans le corps. Et donc, en effet, par exemple, tout ce qui est induit aux médicaments, on appelle ça des éosinophiles, c'est des petites cellules, des globules blancs, qui simplement ont un aspect un peu plus rougeâtre ou en dessous de certaines colorations standards, et bien ça c'est plus médicamenteux. Maintenant, moi je serais incapable d'aller plus loin, je ne suis pas spécialisée en anapathe, je ne suis pas simplement pas anapathe, donc moi généralement ce qui m'intéresse plus c'est les lésions par en blanche, et des trucs comme ça. Puis toxicologie, non. Hein. Toxicologie c'est est-ce que la personne a été sous influence au moment. Qu'elle a conduit le véhicule, est-ce que la personne était sous influence au moment des faits, que c'est ça qui a moins de lésions, est-ce que c'est ça qui a causé le décès des toxicologues? Ils s'en foutent si c'est vaccin ou pas. Hein. Ça, c'est pas les toxicologues qui font ça.
C'est une question plus sur les médecins que sur la pratique elle-même. Est-ce que, peut-être vous ou des collègues, d'une manière générale, les personnes qui travaillent dans la médecine enfin, au contact de mort, est-ce qu'il y a un impact peut-être psychologique sur les personnes qui sont au contact tous les jours avec la mort, enfin, est-ce que...
Ben, je pense qu'il faut... Parfois, c'est vraiment juste le cas qui peut faire déstabiliser quelqu'un. On a récemment eu quelqu'un dans la magistrature, un truc même pas, c'est juste une chute de hauteur, et que je pense que l'enfant de la victime a vu la chute. Et donc, du coup, ça l'a tellement choqué que... C'est parfois des petites choses, hein. On ne sait jamais. Donc oui, en effet, il y a des gens qui ont arrêté, qui se sont réorientés, qui à un moment donné ne supportent plus. Puis on a eu, parfois on a juste des trucs très très violents avec plus qu'une centaine de coups de couteau. Donc c'est des choses qui peuvent vraiment choquer. Et parfois on réfléchit aussi parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui a fait faire réagir l'auteur comme ça. Donc en effet, oui.
Merci.